de Jakarta. Voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Ravi de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en française diffusée depuis Jakarta. Je m'appelle Tiwi et je vais vous accompagner pendant 60 minutes pour présenter un certain nombre de programmes tels que les journaux,
les infos de l'Indonésie,
l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, comme d'habitude, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde.
Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. Le gouvernement indonésien facilite l'exploration commerciale des petites et moyennes entreprises en Arabie Saoudite. L'Indonésie est prête à présenter des données sur la couverture forestière en réponse au règlement européen sur la déforestation. Le commandant du TNI a demandé au chef d'état-major de l'armée de l'air de faire une percée pour renforcer les équipements de défense. Chers amis, nous présentons maintenant le journal en complet. Le gouvernement indonésien facilite l'exploration commerciale entre 44 petites et moyennes entreprises assistées par l'Organisme national de normalisation avec l'importateur de Golden Alkama d'Arabie Saoudite pour améliorer les performances à l'exportation des produits alimentaires et de boissons. L'ambassadeur plénipotentiaire de la République d'Indonésie en Arabie Saoudite, Abdul Aziz Ahmad, a déclaré vendredi dans un communiqué à Jakarta que l'exploration commerciale vise à améliorer les performances des exportations indonésiennes vers l'Arabie Saoudite. Par la facilitation de cette exploration commerciale, Golden Alkama d'Arabie Saoudite effectue la conservation en examinant les spécifications ou profils de produits et des catalogues de produits de petites et moyennes entreprises indonésiennes pour être distribué sur le marché saoudien via le réseau de supermarchés de vente au détail appartenant à Golden Alkama d'Arabie Saoudite. Grâce à cette facilitation de l'exploration commerciale, les acteurs de PME peuvent obtenir des informations sur le marché et l'exigence relative aux produits entrant en Arabie Saoudite. Ces informations sont importantes à connaître afin que davantage de produits de petites et moyennes entreprises indonésiennes puissent entrer sur le marché saoudien. Le gouvernement indonésien mènera des activités diplomatiques en présentant des données complètes sur la couverture forestière et la méthodologie scientifique utilisée pour faire face au règlement de l'Union européenne sur la déforestation. La ministre de l'Environnement et des Forêts, Mme Siti Nurbaya, a déclaré vendredi dans sa déclaration à Jakarta que l'Indonésie dispose d'une base de données forestières avec Simontana, ou Système national de surveillance des forêts, qui est assez détaillé. Le règlement de l'Union européenne sur la déforestation a été ratifié par le Parlement de l'Union européenne le 31 mai 2023, qui comprend les produits d'élevage, le cacao, le café, l'huile de palme, le soja et le bois, y compris les produits dérivés tels que le cuir, le chocolat et les meubles. Selon Siti Nurbaya, ces produits doivent faire preuve de diligence raisonnable pour garantir qu'ils ne proviennent pas de terres connaissant une dégradation forestière ou bien une déforestation. Le commandant de TNI, le général Agus Subianto, a demandé au chef d'état-major de l'armée de l'air, le maréchal de TNI, Mohamed Tony Haryono, de faire des percées dans le domaine de la technologie pour renforcer le système d'armes principal. Cette demande a été transmise par le commandant de TNI, Agus Subianto, lors de son discours d'ouverture de la cérémonie de passation du poste de Kassau du maréchal TNI Fajar Prasetya au maréchal de TNI Mohamed Tony Haryono à l'aérodrome de Halim Perdana Kusuma à l'est de Jakarta vendredi. Selon Agus, cette percée doit être réalisée pour que la force de défense de l'armée de l'air indonésienne augmente afin que son existence soit prise en compte sur la scène asiatique et mondiale, en plus de se concentrer sur les percées technologiques dans le domaine des équipements de défense. Agus Subianto a également conseillé à Tony d'être en mesure d'adapter et d'entraîner tous les équipements de défense de TNI AU laissés par le précédent maréchal de Kassau, Fajar Prasetyo. Avec l'élection de Tony au poste de Kassau, il espère que l'armée de l'air sera en mesure de protéger la souveraineté et la territoire aérien de l'Indonésie. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. L'assistance humanitaire du gouvernement indonésien pour la Palestine est arrivée à l'aéroport international au Caire en Égypte jeudi 4 avril, 10h heure locale. L'aide humanitaire est arrivée au Caire après avoir volé pendant environ 2 heures à bord d'un avion Garuda Indonesia de type A330-900. Et ensuite, le chef du BNPB, Suharyanto, a symboliquement remis l'aide humanitaire au représentant du ministère égyptien de la Santé. Suharyanto espère que l'aide fournie par le gouvernement égyptien pourra être bénéfique pour les Palestiniens en raison du conflit dans la région de Gaza. Suharyanto, dans un communiqué de presse vendredi, espère également que cette livraison d'aide pourra se rapprocher des relations entre l'Indonésie et l'Égypte. Représentants du ministère égyptien de la Santé ont exprimé leur gratitude au gouvernement indonésien pour avoir soutenu les efforts de leur pays pour aider les Palestiniens. Le roi de Jordanie, Abdallah II, et le prince d'Arabie Saoudite, Mohammed bin Salman, se sont rencontrés pour discuter de la crise à Gaza. Comme le rapport Arab News, cité par CNN Indonésie vendredi, a déclaré que les deux hommes avaient parlé de l'urgence d'une résolution politique de la crise palestinienne à travers une solution à deux États. Ils considèrent que ce règlement peut garantir l'établissement d'un État palestinien indépendant et souverain. Le prince Mohammed bin Salman apprécie et soutient les diverses mesures prises par le gouvernement jordanien pour maintenir la sécurité et la stabilité du pays. La Corée du Sud prépare une réunion trilatérale avec le Japon et la Chine en mai. La Corée du Sud a l'intention de tenir une sommet trilatérale avec le Japon et la Chine en mai 2024 pour continuer les négociations bloquées depuis 2019 en raison des relations compliquées entre le Japon et la Corée du Sud sur le travail en temps de guerre et la pandémie de COVID-19. Le rapport Kyoto cité par Antara vendredi a indiqué que les dirigeants des trois pays asiatiques discuteront probablement de la coopération économique et des questions régionales, notamment les menaces nucléaires et balistiques de la Corée du Nord. Séoul et Tokyo espèrent que la Chine pourra utiliser son influence sur Pyongyang pour répondre aux préoccupations concernant ces questions. Chers amis, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie, diffusé depuis Jakarta. Merci d'écouter la Voix de l'Indonésie, diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici la rubrique Les Nouvelles de l'Indonésie. Les premières nouvelles sont venues de Sleman, Yogyakarta. Le gouvernement provincial de la région spéciale de Yogyakarta a lancé la réhabilitation des terres dans la zone tampon du Mont Merapi, qui est centrée à Padukuhan Balong, le village Umbul Harjo, Cangkringan, dans la région de Sleman, mercredi. Le gouverneur Sri Sultan Hamengkubuwono a déclaré que la réhabilitation des terres sur le terrain de Sultan Ground a été réalisée dans le cadre d'un effort du gouvernement Yogyakarta pour pour soutenir la préservation de la région du Mont Merapi. Selon lui, le terrain Sultan Ground peut être utilisé par la communauté, mais pas pour des activités minières. Le Sultan fournit également un soutien si la zone retrouve sa fonction d'origine et si des arbres sont plantés pour offrir des avantages plus larges à la communauté environnante. À cette occasion, la plantation d'arbres a également été réalisée par le gouverneur Sri Sultan Hamengkubuwono X, la régence de Sleman Kustini Sri Purnomo, le régent adjoint de Sleman, M. Danang Maharsa, et les personnels de Forkopimda Sleman. Kustini Sri Purnomo a déclaré que la plantation d'arbres sur les terres de l'ancien mine Sultan Ground était un véritable effort du gouvernement Yogyakarta, Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, en collaboration avec des éléments de la société dans le but d'améliorer l'écosystème dans les pentes du Mont Merapi. Il a déclaré que le gouvernement de la régence de Sleman est fermement engagé à accroître la capacité de charge de l'environnement afin de soutenir le confort et la sécurité environnementale des habitants de la régence de Sleman. Les nouvelles suivantes de Makassar, Sulawesi du Sud. L'aéroport international Sultan Hasanuddin présente des services de santé sous la forme de la première installation mobile de première secure en Indonésie pour soutenir le service de poste de commandement intégré de l'Eid al-Fitr 2024. Le chef du centre de quarantaine sanitaire de Makassar, M. Agus Jamaluddin, à l'aéroport international Sultan Hasanuddin de Maros, a souhaité mercredi que cela puisse fournir un service rapide aux passagers d'avion qui ont besoin d'aide. Selon lui, ce service de premier secours est quelque chose de nouveau et le premier en Indonésie. En outre, pour soutenir le poste de santé de l'aéroport, il y a 20 agents de santé, entre autres 6 médecins qui travaillent en alternance. Les dernières nouvelles de Banda Aceh dans la province d'Aceh. Le gouvernement d'Aceh, par l'intermédiaire du service islamique de la charia, a déclaré que le défilé itinérant de Takbir accueillant l'Eid al-Fitr à Aceh serait annulé et remplacé par le festival Takbiran à la Grand Mosquée Baitur Rahman à Banda Aceh. Le chef du service islamique de la charia Aceh, M. Syahrul Fajri, à Banda Aceh a déclaré mercredi que cette année, le défilé du Takbir sera remplacé par le festival Takbiran qui se tiendra dans la cour de Grand Mosquée à la veille de l'Eid al-Fitr. Zahrul a déclaré que le défilé Takbiran ne pourrait pas avoir lieu dans le cadre du programme stratégique national qui se déroulerait à Aceh, à savoir la Semaine nationale du sport et l'élection du chef régional. En dehors de cela, une autre raison pour laquelle le relais de la flamme pour célébrer l'Eid al-Fitr cette année a été annulé est également l'état des routes dans la région de Banda Aceh qui était en cours de réparation par le département local. Même s'il n'y a pas de défilé au flambeau, a déclaré Zahrul, les habitants d'Aceh peuvent toujours ressentir l'excitation de la nuit de l'Eid al-Fitr en regardant l'écho du takbiran qui se déroule dans la cour de Grand Mosquée Baitur Rahman. Chers amis, c'était la rubrique Les Nouvelles de l'Indonésie. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici l'histoire jeudi. Je commence l'histoire jeudi avec les événements de 6 avril 2022 et célébré comme la Journée nationale des pêcheurs indonésiens. La Journée nationale des pêcheurs est célébrée depuis 1960 comme une forme d'appréciation pour les services des pêcheurs indonésiens dans leurs efforts pour répondre aux besoins protéiques et nutritionnels de tous les niveaux de la société indonésienne, et comme une forme de rappel pour être reconnaissant et promouvoir le bien-être des pêcheurs. La Journée des pêcheurs est aussi un rappel pour lutter contre l'exploitation excessive des ressources marines qui peut nuire au milieu marin. Le 6 avril 1996, le président du Rwanda et le président Burundi ont été tués. Le président du Rwanda, Juvenal Habyarimana, et le président du Burundi, Cyprien Ntaryamira, sont décédés le 6 avril 1996 après que l'avion dans lequel ils voyageaient s'est écrasé dans la capitale rwandaise, Kigali. Les deux hommes retourneront dans leur pays respectif après une réunion des dirigeants d'Afrique orientale et centrale en Tanzanie pour discuter des efforts visant à mettre fin à la violence ethnique au Rwanda et au Burundi. Le 6 avril est désigné comme la Journée internationale du sport. Elle a été déclarée par l'Assemblée générale des Nations Unies en 2013, le 6 avril, comme la Journée internationale du sport pour le développement et la paix. Cette journée est célébrée pour apprécier la contribution du sport et l'activité physique à l'éducation, au développement humain, à des modes de vie sains et à un monde pacifique. La détermination 6 avril était basée sur les origines des premiers Jeux olympiques modernes qui ont eu lieu le 6 avril 1896. La Journée internationale du sport pour le développement et la paix entre les pays connaîtra que le sport est la bonne plateforme pour soutenir la paix mondiale. L'ONU reconnaît que le sport peut apporter des changements sociaux entre les pays et constituer un pont vers l'amélioration des normes d'éducation, de santé et de développement économique mondial. Chers amis, c'était l'histoire aujourd'hui de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Manisnya senyumanmu membekas dalam kalbu. Kini ku rasa ku telah jatuh cinta pada sosok malaikat yang tiada bersaya. Itu kamu di dalam hatiku, hanya kamu bidadari surgaku. Oh, maukah kamu menjadi pendamping dalam hidupku yang akan selalu temani hidupku ini, dan kan ku berikan semua taman surga di jatuh cinta pada sosok malaikat yang tiada bersaya. Itu
kamu di dalam hatiku.
C'était la première chanson indonésienne. J'espère que vous l'aimez. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde sur la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Chers auditeurs, voici donc mon Indonésie.
Voice of Indonesia.
Vous écoutez la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici la rubrique Mon Indonésie. Intitulé Les exportations de durian et de mangoustan vers la Chine augmentent. Le ministère du Commerce de la République d'Indonésie a déclaré que les produits de durian en provenance d'Indonésie sont très demandés en Chine. La demande totale atteindra 8 milliards de dollars américains en 2024. Cité par Antara jeudi 4 avril, le directeur général de développement national des exportations du ministère du Commerce, M. Didi Soumedi, a déclaré que chaque année, la demande de durian en Chine continue d'augmenter. En 2022, la demande de durian en Chine atteindrait 2 milliards de dollars américains et en 2023, elle a passé à 6 milliards de dollars américains. Didi a déclaré que le durian est l'un des principaux produits à base de fruits. Selon Didi, les planteurs peuvent profiter de cette opportunité pour améliorer la qualité des durians. Ces dernières années, les planteurs auraient également commencé à planter intensivement divers types de durian ayant du montant jusqu'au Musangking. En Chine, le type de durian le plus recherché est le type montant. Par conséquent, actuellement, le ministère du Tourisme et le ministère concerné commencent à développer des durian montant dans diverses régions telles que le centre de Java. Même si le durian est demandé en Chine, Didi a déclaré que le durian n'est pas encore le fruit avec les revenus les plus élevés. Il a déclaré que l'Indonésie dispose encore d'autres fruits exotiques qui sont également demandés par les marchés étrangers, tels que les ananas, les bananes, les avocats et les mangoustans. Plusieurs régions d'Indonésie exportent déjà au mangoustan vers la Chine, entre autres l'ouest de Nusa Tenggara, et le chef du centre de quarantaine des animaux, des poissons et des plantes de Nusa Tenggara Ouest, M. Agus Mugianto, à l'ouest de Lombok, a déclaré qu'en mars 2024, 6 tonnes de mangoustan ont été exportées vers la Chine. Les exportations ont été réalisées via l'aéroport international de Lombok, puis arrêtées à Jakarta et continuées jusqu'à Shanghai, la Chine. Donc, selon Lombok, le gouvernement de la régence de Purwakarta exporte également des fruits de mangoustan vers la Chine. Le responsable de Purwakarta, M. Benny Irwan, a déclaré que la production totale de mangoustan Purwakarta en 2022 avait atteint 3 tonnes, puis a augmenté à plus de 3,4 tonnes en 2023. Outre la Chine, les fruits d'Indonésie sont également demandés par des pays comme le Japon, l'Australie et d'autres pays. Chers amis, c'était la rubrique Mon Indonésie de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Voice of Indonesia.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, en plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Bon, chers auditeurs, maintenant nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Merci d'être fidèle à notre antenne, la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique magazine culturel. Cette fois, nous allons vous présenter la mosquée de Kurung. La mosquée Al-Ikhlas, située sur la route de la côte nord Surabaya-Banyuwangi, précisément dans le sous-district de Pajarakan, le village de Sekokerto, s'avère qu'en plus d'être différente dans sa forme des autres mosquées, elle a également sa propre unicité. Cependant, sa situation sur la route Pantura fait qu'elle est visitée par de nombreuses personnes qui la traversent. La mosquée Al-Ikhlas est aussi connue sous le nom de mosquée du Dôme ou mosquée de Kurung, parce que sa forme ressemblait à un casse ou un dôme de casse sans aucun mur sur les bords. Cette mosquée a été construite en 1979 par la sucrerie Pajarakan. Avant de devenir une mosquée, ce lieu était une salle de prière utilisée par les ouvriers de sucrerie pour leur culte, puis développée plus tard et construite en mosquée. Cette mosquée de 45 ans peut accueillir environ 400 fidèles. Chaque année, cette mosquée est toujours une destination pour les voyageurs qui traversent la route Pantura pour pratiquer leur culte ou bien simplement faire une courte pause après un long voyage. Avec sa forme ressemblant à une case ou un dôme sans paroi latérale, cette mosquée est devenue une icône en soi au milieu du trajet pour les usagers de la route. Au cours du mois de Ramadan, les fidèles peuvent profiter de diverses activités telles que la rupture du jeûne ensemble, le tarawih et le tadarus, comme le font les autres mosquées. Avec son charme enchanteur et son design unique, la mosquée Kurung reste un lieu de culte dont les habitants locaux sont fiers et constitue également une destination attractive pour ceux qui y passent. Chers amis, si vous êtes en Indonésie et que vous passez par la route de la côte nord Surabaya, Banyuwangi, prenez le temps de prier ou arrêtez-vous un instant dans cette mosquée de Kubah ou bien mosquée de Dôme. C'est un magazine culturel de la voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Merci à tous. Au revoir.
Kadang sadar, kadang enggak, bikin jadi sengsara. Mau bagus cari hancur, malah aut-autan. Minta diberi hati, minta diberi jantung, minta diberi harta, minta yang lebih-lebih. Beribadah, yo, jangan banyak alasan. Ayo sholat, yo, sebelum disolatkan. Beribadah, yo, jangan banyak alasan. Ayo sholat, yo, sebelum disolatkan. Yo, yo. Banyak manusia bingung dengan keadaannya. Minta ini, minta itu dengan segala cara. Kadang sadar, kadang enggak, bikin jadi sengsara. Mau bagus jadi hancur, malah aut-autan. Minta diberi hati, minta diberi jantung, minta diberi harta, minta yang lebih-lebih. Beribadah, yo, jangan banyak alasan. Ayo sholat, yo, sebelum disolat.
Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia sur la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Pour la rubrique suivante, voici l'Indonésie en couleur, la rubrique qui vous fournit des informations intéressantes en Indonésie.
Chers amis, merci d'être fidèles à notre antenne, la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique l'Indonésie en couleur, intitulée La foire de l'Indonfilter de Jakarta 2024. Pour ceux d'entre vous qui célébrent l'Indonfilter à Jakarta, il existe un événement appelé La foire de l'Indonfilter de Jakarta 2024. Il est ouvert de 3 avril jusqu'au 21 avril. Dans les halls A1, 2 et 3, et ensuite B1, B2 et C1, C2, ainsi que dans l'espace ouvert de J-Expo Kemayoran. Pendant 19 jours, les habitants de Jakarta et ses environs peuvent profiter de diverses promotions provenant de divers stands d'exposition, tels que la nourriture, les boissons, les vêtements, les produits électroniques, l'automobile, les produits de service, les appareils électroniques, les produits de beauté, les banques, les meubles et les autres. Portant le slogan « Exposition, relation, divertissement au mois de Ramadan », la foire de l'Indonfilter de Jakarta 2024 présente 500 participants, entre autres des nourritures et des boissons, des vêtements, des produits électroniques, de l'automobile, des appareils électroménagers, des produits de beauté, des services bancaires et des meubles. Le stand sont repartis dans quatre zones du G-Expo Kemayoran. Dans le détail, le hall de A1, 2 et 3 contient 39 marques, le hall B1, B2 et le hall C1, C2 contient 42 marques et l'espace ouvert contient 55 marques. En plus d'offrir divers stands, la foire de l'Idol Fitr de Jakarta a également organisé divers concerts mettant en vedette des musiciens et des groupes indonésiens, notamment Pass Band, Armada, Last Child, Changcuter, Opik et Les Autres. Les billets d'entrée à la foire de l'Idol Fitr de Jakarta est de 25 000 rupiah par personne en semaine et 35 000 rupiah par personne des jours fériés. Il existe également un forfait de 40 000 rupiah en semaine et 50 000 rupiah pour ceux qui souhaitent profiter d'expositions et de concerts de musique. Chers amis, c'était la rubrique L'Indonésie en couleur de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Merci à tous. À bientôt.
Manusia tercipta sempurna. Perjuangkan harga dirimu dan raihlah cintamu. Dengan tekad kita bisa. Kita kuat, kita hebat. Aku kamu, kita istimewa. Kita kuat. Kita semua hebat, bangkit kembali meraih mimpi. Kesalahan, kegagalan hidupmu jadikan pelajaran yang berharga. Jangan salahkan. Kembali meraih.
dernière chanson que vous écoutez et nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute.
Voice of Indonesia.
Bonsoir à tous. Dans cette édition, nous vous présentons une chanson de Keroncong intitulée Nur Lela, chantée par Park Siben. Cette chanson a été recyclée et chantée à plusieurs reprises par des musiciens et chanteurs indonésiens de différentes générations, y compris Ayudhya, la petite fille de Bing Slamet. Cette chanson raconte d'une femme à l'aise, avec une belle apparence, de bonne manière et douée pour la danse traditionnelle malaise s'appelle Nur Lela, qui deviendra plus tard le titre de cette chanson. Bon, chers auditeurs, voici Park Siben dont le titre est Nur Lela. Bonne écoute!
Caca, hatinya takkan senang, duduknya tak tenang. Dengar bunyi gendang, ingin selalu berdenang. Ahan Nur Lela, dengarkan kalipso dengan bongo. Ingin menari saja, menari baduo, siap goyang suku.
Indonesia.
Kau hanya
Voice of Indonesia.
Jangan lagi kau sesali keputusanku. Ku tak ingin kau semakin kan terluka. Tak ingin ku paksakan cinta ini. Meski tiada sanggup untuk kau terima, aku memang manusia paling berdosa. Ya nanti rasa demi keinginan semu, lebih baik jangan mencinta aku dan semua hatiku, karena takkan pernah kau temui cinta sejati. Berakhirlah sudah semua kisah ini dan jangan kau tangisi lagi. Sekalipun aku takkan pernah mencoba kembali padamu. Sejuta kata maaf terasa kan percuma.
Chers auditeurs, voilà l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain dans la même heure et la même fréquence. Au revoir.